Alors, le sujet est bien sûr le piège, puisque jusqu'où aller, on peut aller jusque n'importe quoi, jusque n'importe où, on peut faire tout ce qu'on veut ou n'importe quoi. Donc, c'est vrai que les neuropédiatres comme les rhumatologues, et ma collègue a juste parlé avant, je pense que nous sommes les deux grosses portes d'entrée de la plainte douloureuse et d'une sémiologie, on va dire, je vais être un peu plus large que simplement la douleur, mais d'une certaine forme de conversion ou en tout cas de symptômes associés. Et c'est toujours le problème, c'est que la porte d'entrée, c'est quoi? C'est les céphalées, maux de tête en général, c'est des déficits musculaires ou des fatigabilités qu'on n'arrive pas à quantifier, qui sont souvent un peu floues, c'est une hypersensibilité ou une hypoesthésie, un mélange des deux. Et je pense qu'il est important de bien essayer de se repérer sur la variabilité dans le temps, dans l'espace de cette sémiologie, parce que c'est là où on va essayer de limiter les dégâts et les bilans inutiles, le célèbre bilan complet. Mais en même temps, ne pas perdre de vue que quand en effet on reprend, et là je rebondis sur ce qu'a dit Pascal Delonlay tout à l'heure, quand on reprend l'historique de maladies chroniques rares et qu'on reprend les grandes séries, il y a énormément de ces maladies rares où le point de départ de la maladie est une sémiologie qui ressemble à ce que je viens de vous décrire, avec des symptômes qui paraissent un peu flous, des symptômes douloureux, et où en fait c'est l'ajout d'un deuxième symptôme qui va amener au diagnostic de cette maladie rare. Donc c'est vrai qu'on est toujours pris entre deux étaux, ne pas passer à côté de cette maladie rare. Et en fait, faire courir un risque, en particulier à l'enfant, avec la pression des parents derrière qui n'améliore pas la clairvoyance, on va dire gentiment. Et d'autre part, ne pas aller faire n'importe quoi, parce qu'on peut aller vraiment faire n'importe quoi. Là, si on se lâche, je vous rassure, les neurologues ont un bon potentiel. Alors, donc la première règle, en tout cas pour un neuropédiatre et je pense pour les autres, c'est de connaître ces fameuses maladies rares dont on parle. C'est-à-dire que pour dire que ce n'en est pas une, il faut avoir une petite connaissance de ces maladies et pas commencer à dire il n'a pas de signe, donc je suis sûr de moi. Voilà. Il a un examen normal, donc c'est psy. Exemple typique de ce qu'on entend régulièrement. Et donc il faut revenir et connaître ces maladies rares et connaître leur historique, parce que c'est en apprenant leur historique qu'on peut essayer de déterminer des petites particularités qui font que quand on va voir un enfant qui a une plainte qui paraît un peu confuse, il va y avoir le fil qu'on va réussir à tirer qui va nous faire dire là, on ne peut pas s'arrêter à juste dire c'est psy, même s'il arrive avec un carton grand comme ça d'examen, parce que la grande caractéristique du carton plein d'examens, c'est que généralement, c'est des examens inutiles et qui ne sont pas les bons. Donc de toute façon, je veux dire, je vais prendre des exemples totalement extrêmes, mais par exemple, il y a certaines formes de porphyrie qui peuvent être révélées par des douleurs extrêmement sévères, chroniques et autres. Je peux vous assurer qu'ils n'arrivent jamais avec le dosage pour éliminer une porphyrie. D'accord? Donc, je ne dis pas qu'il faut faire le dosage à tout le monde, mais généralement, le carton est plein des examens qui servent à rien. Donc, il faut revenir à ce qu'on en connaît. Et il faut quand même se rappeler, mais je ne cherche pas du tout à faire peur à tous les psychiatres et médecins de la douleur dans cette salle, que la douleur, c'est un mode de révélation de leucodystrophie. Et je peux vous citer des dizaines de cas où les gamins, pendant 6 mois, ont eu que des sémiologies douloureuses. Alors, ils avaient peut-être été mal examinés. Moi, le problème, c'est que j'arrive à un moment de la queue de l'histoire où il y a d'autres choses. Mais c'est un mode de révélation extrêmement classique et connu. Vous avez un certain nombre de pathologies musculaires où, en effet, quand ils arrivent jusqu'à nous, ils ont autre chose que la douleur, mais ils ont très souvent commencé par des douleurs. Et que ce soit des dystrophies musculaires génétiques ou que ce soit des maladies métaboliques, déficit en maltazacide, quand on reprend l'histoire des déficits en maltazacide adultes, ils ont généralement des douleurs qui ont commencé avant l'âge de 10 ans et le diagnostic est fait après l'âge de 25 ans. Alors vous allez me dire, c'est pas grave. Pendant 15 ans, ils n'ont pas eu de diagnostic, ça n'a pas changé grand-chose à leur vie. C'est après la question qu'il va falloir se poser, c'est le fait de ne pas avoir fait un diagnostic précis, entre guillemets, d'avoir peut-être loupé ces maladies rares, ou qu'on identifiera dans 10 ans qu'on a un peu plus d'outils, est-ce qu'on a mis en danger l'enfant? Est-ce qu'il y a une perte de chance? Ou est-ce que simplement le fait de s'en occuper, qui est en gros ce à quoi on va arriver, n'est pas la chose la plus importante? Hein, je vous rappelle juste une maladie qui n'a rien à voir avec celle qu'on traite aujourd'hui, mais la myopathie du chêne, ce qui a amélioré la survie de la myopathie du chêne. On est passé d'un âge moyen de décès il y a 30 ans à 18 ans, à maintenant des gens qui décèdent après l'âge de 30 ans, même 40 ans. La seule différence, ce n'est pas la thérapie génique, c'est ce que vous raconte le Téléthon, c'est le fait qu'on s'en occupe. Donc en fait, s'occuper des gens, même si on n'a pas obligatoirement tous leurs diagnostics précis, manifestement, ça les améliore. Donc, une fois qu'on a dit ça, je reviens sur la sémiologie. Alors, la neurologie, vous savez qu'on aime bien la sémiologie. On doit faire partie encore des rares surspécialités où on examine les gens avant de demander des examens complémentaires. Donc, je suis un peu méchante, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, quand j'ai les internes, les premiers jours, je commence par leur dire « Est-ce que tu l'as examiné ?» Quand ils commencent à me faire la liste de tout ce qu'il a prévu, ou en me disant « Cet enfant vient pour ». Non, il ne vient pas pour un EEG, il vient parce qu'il a une épilepsie qui justifie de faire des examens. Donc, il ne vient pas pour un examen. Donc, c'est l'examen clinique. Et la sémiologie, c'est fondamental. Et en effet, ces malades prennent du temps. Et éliminer une cause neurologique, ou en tout cas essayer de faire un peu le tri, ça prend du temps parce qu'un interrogatoire correctement fait, je ne parle pas psy, je parle là de sémiologie neurologique, ça prend du temps. Faire décrire aux gens, faire décrire à un enfant, faire décrire à plusieurs personnes différentes la sémiologie de l'enfant, la regarder, éventuellement la filmer, ça prend du temps. Donc ce qui est important, c'est de revenir à cette sémiologie pour essayer de définir clairement la topographie de ce qu'on constate, que ce soit de la douleur, de l'impotence, de l'hypo et de l'hyperesthésie, la temporalité, tous les facteurs déclenchants. Il faut aller vraiment chercher dans le détail, parce qu'il y en a que les parents n'oseront pas vous signaler alors qu'ils sont un réel facteur déclenchant. On le connaît pour d'autres pathologies, par exemple l'épilepsie. Comment des parents oseront vous dire que l'enfant fait une crise quand il boit un verre d'eau? Ils vont avoir l'impression d'être ridicules. Pourtant, c'est vrai. C'est connu, c'est une forme d'épilepsie qui existe. Donc, aller chercher des facteurs déclenchants, c'est passer au-delà de ce que habituellement il est conventionnel d'appeler un facteur déclenchant. Et puis, c'est l'examen clinique. Et là, c'est pareil, ça demande de connaître sa neurologie, c'est-à-dire qu'un syndrome pyramidal, ça se cherche et ça se définit. Une atteinte extrapyramidale, ça se cherche. Un déficit moteur, ça se teste et ça se cote. Et on ne se contente pas juste de dire il a un examen normal parce qu'on a tapé deux réflexes. Alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais je peux vous dire que le nombre de gamins à qui on n'avait pas regardé les cutanés abdominaux et qui avaient une tumeur médulaire, on en a tous en stock. D'accord ? Donc il faut examiner les gens. C'est très embêtant, mais c'est comme ça. Alors après, il y a les examens. Et la normalité des examens, c'est le pire. Parce que d'abord, généralement, ils en ont eu un stock géant. Et surtout, le fait qu'ils sont normaux, je vous rappelle que ça n'élimine pas une pathologie. Parce que comme ce n'est pas le bon examen, on n'a pas fait le bon diagnostic. D'accord ? La deuxième chose, c'est que le fait que l'examen soit normal, ça n'explique pas tout. D'accord ? Et le fait qu'il soit normal, ça n'explique pas tout non plus. C'est-à-dire que le pire, c'est l'examen mal prescrit, parce qu'on va tomber sur ce qu'on appelle classiquement un incidentalome, c'est-à-dire un truc qui n'a strictement rien à voir avec la sémiologie de l'enfant, qui va traîner comme la croix là sur le dos, ou ce que vous voulez, un sac à dos, une pierre, je ne sais pas. Et ça va aggraver sa douleur, généralement, sa sémiologie, mais ce n'est absolument pas à l'origine de son problème. Par contre, les parents vont vous le brandir fièrement, et cette magnifique image de la boule, c'est généralement une boule, hein, la boule qui a été vue à l'IRM, va faire à peu près le tour de la France et de la Navarre, parce que c'est la boule qui fait parler tout le monde, mais ce n'est pas la boule de cristal. Donc, attention à la cohérence dans les datas, c'est-à-dire entre les examens qui sont demandés, ce qu'ils veulent dire, et quand on trouve un truc bizarre, est-ce que réellement ce truc il a un rapport avec la plainte de l'enfant douloureuse et sa sémiologie? Et donc là encore, il est de bon ton, en tout cas souvent, même éventuellement de reprendre son livre d'anatomie ou de relire des gens qui ont bien décrit la sémiologie pour voir si ce qu'on a trouvé sur l'image peut avoir un quelconque sens et signification vis-à-vis de ce qu'on constate chez cet enfant. Et il ne faut donc pas hésiter à relire les examens déjà réalisés. Exemple typique, l'examen le plus prescrit et le plus mal lu et le plus mal utilisé, c'est l'IRM. Alors l'IRM cérébral, vous pouvez en faire une partout, vous coincez un doigt dans une porte, on vous fait une IRM corps entier, hein, très bien. Après, le problème, c'est que personne ne sait la lire, parce que c'est quand même la caractéristique de la moitié des IRM cérébrales avec lesquelles arrivent les enfants. C'est-à-dire qu'un examen, ça doit être lu, on peut passer à côté de quelque chose. Et donc la première chose, quand en effet ils arrivent avec leur valise, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, c'est pas dire IRM normal parce qu'elle était dans la pile et qu'il y a un compte-rendu où il y a écrit IRM normal, mais c'est sortir les CD et passer une demi-heure à la relire pour vérifier qu'il n'y a vraiment rien et pour vérifier des choses auxquelles éventuellement le radiologue n'a pas pensé parce qu'on ne lui a pas posé la bonne question. C'est-à-dire une douleur où le radiologue va avoir regardé très bien le cerveau, et il ne va pas avoir regardé le défaut qu'il y a sur une vertèbre cervicale, par exemple. Parce qu'il n'a pas regardé l'os, il a regardé l'intérieur de la tête, vu que le malade avait mal à la tête. D'accord ? Donc, il faut relire les examens complémentaires. Il faut peut-être en prescrire beaucoup moins, mais quand ils sont faits, il faut ne pas hésiter à les relire, quitte à se fâcher avec certains collègues qui disent « mais je te dis qu'elle est normale, je pense que ce n'est pas grave ». La deuxième chose, c'est accepter à l'inverse une seconde expertise, c'est-à-dire que ce n'est pas très gênant qu'un dossier fasse le tour de deux ou trois endroits à partir du moment où les gens le relisent sans préjugés. Et je pense qu'on rend service aux parents et des fois, il vaut mieux une deuxième expertise bien faite plutôt que laisser les gens se balader avec leur dossier partout. Ce qui fait qu'à la fin, ils ont fait le tour de tous les mauvais, mais ils n'ont pas de réponse. Ils ont vu deux personnes différentes qui ont eu le même discours. On a peut-être une chance qu'il se pose et qu'on puisse passer à un travail secondaire dont vous faites partie et à sa prise en charge correcte. Il faut, à chaque fois qu'on fait un examen, en accepter les limites. C'est-à-dire que chez l'enfant, faire une IRM, c'est souvent une sédation, une anesthésie générale. Donc ça ne se prescrit pas n'importe comment. Il faut avoir un argument ou il faut avoir déjà une piste diagnostique. Il ne faut pas juste faire une IRM pour se rassurer ou se consoler, du genre, je lui fais une IRM, comme ça je l'enverrai au pédopsie, je suis sûr qu'il n'a rien. Ça veut dire quoi, ça? D'abord, vous n'avez pas de chance, probablement on va lui trouver un truc, une boule qui ne sert à rien. Et en plus, ça va, en tout cas moi, ça ne me rassure pas comme neurologue, vous aurez imposé à cet enfant un examen en l'ayant endormi, ce qui n'est quand même pas très simple. Et donc, il faut savoir pourquoi on demande l'examen, et à chaque cours, je dirais, mesurer un peu le bénéfice-risque, mais clairement, toujours interpréter ces examens, en particulier quand il y a des variantes de la normale, en fonction de la maturation cérébrale, en particulier que ce soit l'EEG ou l'IRM, n'est pas la même à 6 mois, à 1 an, à 3 ans, à 5 ans ou à 10 ans. Donc on peut dire d'énormes bêtises simplement parce qu'on n'a pas interprété les examens avec l'âge. On peut trouver 3 pointes sur un EEG, ça ne veut pas dire qu'on est épileptique. Donc attention à l'interprétation qu'on va en faire. La deuxième temps, c'est, je vous ai dit, prendre le temps, c'est-à-dire qu'il faut réexaminer cet enfant, éventuellement à des temps différents ou dans des circonstances différentes. Et c'est là où intervient, comme on a vu, en particulier dans des sémiologies soit douloureuses, soit de mouvements anormaux et autres, le rôle de différents spécialistes. C'est-à-dire que je pense que le médecin, quelle que soit sa discipline, psychiatre, c'est un médecin a priori. Donc voilà, tous les médecins sont un domaine de compétences, mais je pense qu'il est important d'avoir un autre regard qui est par exemple celui des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des psychomotriciens selon l'âge de l'enfant, c'est-à-dire qu'une autre grille d'évaluation et de lecture de la sémiologie de l'enfant ou de sa douleur soit faite par des gens qui vont la décoder peut-être différemment de nous. C'est pas mieux ni moins bien, mais ça peut être utile. Et c'est ce regard croisé qui va des fois permettre de ne pas passer à côté d'une vraie maladie ou à l'inverse, de ne pas tomber dans le piège d'une pathologie complètement construite. Donc, jusqu'où aller ? Ben, on va se servir de vieux outils. Hein. Alors, les vieux outils, c'est ce que je vous ai dit, connaître la topographie, en gros, neurologique et la sémiologie neurologique. Se rappeler qu'il y a un cerveau, une moelle, des muscles, des nerfs, des plexus et autres. Et pas aller raconter, il a mal, c'est sûrement neurologique, avec une topographie qui est complètement incohérente. Donc, essayer de revenir à ce qu'on en connaît. Utiliser des vraies grilles d'évaluation, on a vu là pour la fibromyalgie, essayer d'utiliser ce qui existe déjà. Il y a beaucoup de grilles d'évaluation qui existent, que ce soit pour les mouvements anormaux, la douleur, pour des sémiologies de céphalées et autres, pour essayer de quantifier clairement la plainte. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse, mais en tout cas, au moins, on aura un indicateur et un marqueur. Et là encore, l'usage de la vidéo peut être très utile. La vidéo, ce n'est pas simplement parce qu'on est paralysé ou on a un mouvement anormal, mais la façon de marcher de quelqu'un de douloureux, la façon de s'asseoir, de se relever, peut être un renseignement. Et demander à des parents de nous filer des vidéos de situations où la douleur a été déclenchée ou autre, ça peut être très utile pour le diagnostic. Les outils nouveaux, ben, on a vu tout à l'heure des belles images, évidemment, on en a de plus en plus, et on peut leur faire dire des tas de bêtises ou des tas de belles choses. Donc l'IRM, c'est sûr qu'on a des nouvelles séquences, on peut faire de l'IRM du muscle, du cerveau, de la moelle, d'une racine nerveuse, on peut faire des IRM de partout. Simplement, encore faut-il poser la bonne question. Là, on n'est pas dans l'IRM fonctionnel dont on a parlé tout à l'heure, qui est réellement analyser des mécanismes. Là, on est dans une cause lésionnelle que vous me demandez de trouver, de chercher et de vous rassurer en vous disant qu'il n'en a pas. Donc, il existe quand même des outils qui sont intéressants parce qu'on voit qu'on est à la limite de nos interprétations. Et par exemple, des séquences qui sont un pseudo-équivalent d'une partie de fonctionnelle qui sont l'ASL avec l'activation artérielle qui correspond en fait à un phénomène un peu fonctionnel au niveau cérébral, l'analyse, je vous ai dit, de la myélinisation correcte, certaines séquences de diffusion, de la spectroscopie. On peut arriver à des choses de plus en plus élaborées. Ça, ce sont les outils nouveaux qui peuvent nous permettre de comprendre probablement comment certains enfants intègrent la douleur ou comment leur sémiologie s'intègre au niveau cérébral. Ça ne va pas nous donner obligatoirement la cause, qui est une autre question. Donc on peut arriver tous avec des très belles images, même avec un plateau d'IRM qui n'est pas obligatoirement de l'IRM recherche de haut niveau, avec de la diffusion, de l'ASL, de l'angio-IRM pour voir les vaisseaux. Tout ça peut être fait avec une bonne IRM quand on a demandé les séquences adaptées. L'autre chose, c'est qu'on sait tous qu'il y a des tableaux trompeurs et qu'on va être parasité par des choses qui vont gêner notre analyse, que ce soit de la douleur ou de ce que je vous ai dit. Tout ce qui est trouble de l'humeur ou du comportement va beaucoup nous importuner durant l'examen clinique et va nous gêner beaucoup pour évaluer de façon objective les choses. Il y a le jeune âge de l'enfant aussi, et on a tous en mémoire des encéphalites auto-immunes où là encore, pendant plusieurs mois, il va y avoir une sémiologie trompeuse qui va être sur un mode de trouble de l'humeur avec des douleurs, des drôles de mouvements avant qu'on arrive réellement à la pathologie. Et que là, en effet, les examens qui vont être nécessaires, c'est la grosse artillerie, c'est-à-dire sympathiquement proposer une ponction lombaire à quelqu'un, c'est quand même pas tout à fait un mode d'entrée dans la conversation simple. Alors on peut faire un truc plus facile parce que ça, c'est moins agressif, puis on est content de nous, on va faire des tas d'auto-anticorps. Là encore, hein, quand vous cherchez des auto-anticorps sans savoir ce que vous cherchez, vous ne trouverez pas, d'accord? Et donc, on peut aller dans tous les extrêmes. Alors, on voit bien, par exemple, la grande mode qu'il y a sur la maladie de Lyme, où on va dans les extrêmes, dans les deux sens. Aller proposer une ponction lombaire pour vérifier réellement qu'il y a un Lyme secondaire ou tertiaire avec des anomalies dans le LCR, c'est une autre affaire que faire trois fois de suite la même sérologie avec la même méthode ELISA qui est foireuse et le Western Blot non interprétable. Donc si on a vraiment la conviction qu'il y a des signes neurologiques de maladie de Lyme avec un Lyme secondaire ou tertiaire, le comité d'accueil, c'est ponction lombaire. Et là, vous allez tout de suite voir que tout le monde ne va pas accepter votre accueil. Voilà. Et donc, je pense que le problème des examens neurologiques, c'est qu'il y en a qui sont complexes. Il valent le coup et il faut les faire. Je pense qu'il ne faut pas reculer si réellement, après avoir réellement décrypté les choses, on pense qu'il faut faire une ponction lombaire à cet enfant. Il faut la faire. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire une demi-mesure, c'est-à-dire oh, je vais quand même lui faire l'anticorps dans le sang au cas où. Puis si c'est normal, comme ça j'ai ma conscience tranquille, j'aurai un peu vérifié, mais en fait j'aurai rien vérifié du tout. Soit je pense qu'il a quelque chose et il faut convaincre les parents. Et déjà, leur réaction ou celle de l'enfant va peut-être vous aider à voir si vous êtes dans le vrai. Et il faut aller jusqu'à la ponction lombaire. Soit vous n'êtes pas convaincu et vous vous donnez du temps. Mais faire la demi-mesure, c'est probablement le pire. Donc, je vous ai parlé des vidéos. Et ça, je crois que c'est très important. Et donc, à la question sympathique que m'a posée Lisa, jusqu'où aller en neuropédiatrie, je me suis dit que j'allais chercher dans les grands auteurs, là, parce que la prudence était de rigueur. Et donc, je vous conseille de lire un petit livre, je vous ai mis la diapo suivante, La conclusion de Charcot, qui est un neurologue, comme chacun d'entre vous le sait, qui était quand même à l'ouverture de la neuropsychiatrie. On va être clairement, moi je pense que les deux disciplines doivent cohabiter et s'interpénétrer et non pas se dissocier, mais je ne vais pas faire des grandes analyses du temps. Mais par contre, je pense que cet écrit qu'il a fait il y a donc plus de 100 ans reste complètement d'actualité. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est en fait la confrontation de quelqu'un qui est, je pense, quelqu'un d'extrêmement rigoureux, qui est un vrai positiviste et qui donc, quelque part, a très envie, même s'il a des moyens très inférieurs à mes IRM de toutes les couleurs, de faire des diagnostics, qui essaie de raisonner avec les grandes voies motrices, avec toute la connaissance neurologique qu'il a, et qui en même temps est tout à fait conscient qu'il y a une partie de cette dimension qui lui échappe, et qu'on peut l'appeler comme on veut selon les périodes, mais qui reste quand même un sujet de discussion. Et donc, en effet, la foi ne m'a pas été révélée, je vous rassure pour ceux qui me connaissent, mais je vous conseille de lire ce petit livre qui avait été demandé, en fait, c'est un article qui avait été demandé à Charcot sur sa position vis-à-vis des miracles, et donc de Lourdes à l'origine, c'était la grande période des miracles partout, et où il a écrit un article qui est un article donc de neurologue, où il a essayé justement d'analyser à partir de cas cliniques quelle était la dimension psychique de ces fameux miracles. Et où sa conclusion, c'est que, comme dans toute chose, il faut être modeste, il faut essayer de s'appuyer sur ce qu'on connaît et accepter qu'il y a une partie de la dimension qui nous échappe et qu'on peut s'occuper des gens sans avoir tout compris. Merci.